Hello hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Ça fait des années que je suis en quête du déodorant parfait, qui prévient l'humidité et les mauvaises odeurs sans irriter la peau sensible des aisselles pour autant, ni laisser un parfum improbable genre fraîcheur marine, forêt alpine ou patchouli hippie. Je soupçonne clairement les fabricants de déos d'être les mêmes que ceux des deux horizons de toilette, mais c'est un autre sujet. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la différence entre les déodorants et les anti-transpirants. Et la réponse tient en trois mots, les sels d'aluminium. C'est un ingrédient qu'on trouve facilement dans la nature et fortement décrié depuis plusieurs années, car le grand public mal informé le soupçonne de provoquer des cancers. Mais c'est aussi le seul ingrédient qu'on sache commercialiser qui sache bloquer la transpiration purement et simplement. Plein de gens croient qu'on peut le remplacer par de la pierre d'Alain par exemple. Or, spoiler, c'est juste un gros bloc de sel d'aluminium. Mais faut-il vraiment se méfier des sels d'aluminium? Que dit la science concrètement aujourd'hui? Alors prenons le temps de démêler le vrai du faux avec une sacrée experte, Sophie Strobel.
Donc moi c'est Sophie Strobel, je suis biologiste spécialisée en cosmétologie, je travaille dans l'industrie cosmétique depuis plus de 20 ans. Je suis freelance depuis une quinzaine d'années, je travaille avec beaucoup de marques, plutôt des marques alternatives, comme Talica qui est une marque française, comme Paula's Choice, une marque américaine, comme Garancia par exemple. Et j'interviens à différents niveaux, ça dépend vraiment, j'ai des missions très très différentes et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup j'ai une vision très 360 de l'industrie cosmétique parce que je travaille à la fois sur des formules, des développements de formules, des actifs, tout ce qui est études cliniques, études de tolérance, réglementaires, etc. Mais aussi sur la partie communication, marketing, les relations avec les influenceurs, tout ce qui va être aussi communication scientifique. Donc c'est pour ça que je suis là, pour vulgariser un petit peu la science cosmétologique qui est hyper complexe. En fait, c'est vraiment pas noir ou blanc en cosmétique, c'est des formules, c'est complexe, on a tous une peau différente, une peau qui change. Et voilà, donc moi je suis là pour expliquer, simplifier les choses, les rendre compréhensibles pour le consommateur lambda. Donc ça c'est une de mes casquettes. Donc voilà, donc c'est très 360 mon expérience.
D'accord. Ma première question c'est, qu'est-ce que c'est que les sels d'aluminium concrètement?
Alors les sels d'aluminium, c'est des anti-transpirants ou anti-perspirants qui vont réduire le flux de transpiration sous les aisselles, hein, parce que c'est quand même essentiellement là qu'on les met. Il faut bien les distinguer des déodorants. Ce n'est pas la même chose. Les déodorants, ce sont des produits qui vont contenir des ingrédients qui vont, réduire les odeurs. Les odeurs, c'est lié en fait... Ce n'est pas la transpiration elle-même qui sent quelque chose. Elle ne sent rien. Ce qui donne l'odeur, c'est le fait qu'on ait des bactéries très spécifiques sous les aisselles, qui vont dégrader la transpiration. La transpiration, c'est grosso modo de l'eau, des sels minéraux et quelques déchets de l'organisme. Et en dégradant certaines de ces molécules, ça va avoir une odeur. Donc les déodorants, ils vont soit essayer de masquer l'odeur avec un parfum, par exemple, ce qui n'est pas très efficace, hein, je crois qu'on le sait.
On le sait.
Ça peut éventuellement capter les odeurs. Alors, c'est pas hyper efficace, mais tu as des molécules, des sortes de molécules cages qui vont capter l'odeur, donc un peu réduire l'odeur de transpiration.
Est-ce que c'est ça qui est dans le Febreze?
Exactement, j'osais pas le dire, mais c'est ça, c'est
on
le même principe.
On peut citer les marques.
Voilà, très bien, bah, donc c'est un peu le même principe. Et aussi des absorbants, des poudres qui vont en fait empêcher le flux de transpiration, parce que moins tu as de transpiration, moins tu as d'odeur. Donc ça, c'est les déodorants. Les antiperspirants que sont les sels d'aluminium, et il n'y a que les sels d'aluminium qui sont antiperspirants. L'aluminium, pardon, c'est un métal hein, qui est très abondant sur la Terre. Je crois que c'est le premier métal et le troisième élément sur Terre après l'oxygène et le silicium, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ils vont faire comme des petits agrégats au contact de certains éléments de la sueur et au contact des protéines de la peau. Ils vont faire comme des petits agrégats qui vont boucher un peu, entre guillemets, les pores, ce qui fait qu'il y a moins de flux de transpiration qui vont passer, donc moins d'odeur.
D'accord. Et tu viens de dire que les sels d'aluminium, c'était les seuls antiperspirants, les seuls qui existent, qu'on connaisse, oui. Ou les seuls qu'on utilise?
Qu'on utilise, c'est sûr, en cosmétique, c'est vraiment les seuls. Il ne faut pas confondre, c'est-à-dire que les effets que vous avez avec des antiperspirants ou antitranspirants, que sont les sels d'aluminium, vous ne les aurez pas avec un déodorant. C'est impossible. Vous n'aurez jamais le même effet. Je pense que chacun a tenté et on ne peut pas avoir, à moins d'avoir vraiment une transpiration peu abondante, comme moi, par exemple, depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai accouché, peut-être, il y a un lien, je ne sais pas, je ne sens plus tellement des aisselles, donc je peux tout à fait me contenter d'un déodorant, ce qui n'était pas le cas avant. C'est parce qu'en fait, c'est aussi très dépendant des hormones. Il y a tout un tas de facteurs sur la transpiration. On pense toujours aux adolescents, notamment les garçons qui, avec leurs baskets, qui sentent mauvais, parce que la transpiration, c'est aussi sur la plante des pieds, hein, ou les mains moites. Souvent à l'adolescence, sous l'état, je sais pas, du stress. En fait, la transpiration, c'est quoi ? L'eau en s'évaporant, en fait, elle prend des calories qui sont la chaleur, des calories sur la peau, et elle les emmène dans l'atmosphère. Et c'est ça qui refroidit la peau. C'est un échange thermique. Quand vous sortez du bain ou de la mer, vous êtes mouillé, vous avez froid, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous essuyer. Quand vous êtes essuyé sec, ça va beaucoup mieux. Pourtant, la température extérieure n'a pas changé, la température de votre corps n'a pas changé. Mais c'est cette eau qui, en s'évaporant, vous refroidit. Tu vois ? Voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est la transpiration, c'est sa fonction principale et hyper importante. Une fonction secondaire de la transpiration, ça peut être d'éliminer quelques déchets de l'organisme. Mais c'est vraiment très secondaire. Mais voilà, ça existe.
Ok, j'interromps la géniale Sophie Strobel une petite minute pour vous faire une confidence. J'étais clairement ce genre d'ado plein d'hormones. Et maintenant que je suis adulte, bah je pue quand je suis stressé. Ça n'a pas la même odeur que quand j'ai juste fait une bonne séance de sport ou à cause de la simple chaleur. Du coup, les jours où je sais que je vais être stressé, je mets de l'antitranspirant à base de sel aluminium lambda pour empêcher d'avoir de vilaines auréoles sous les bras. Mais après, j'ai l'impression que mon corps transpire davantage ailleurs, comme le dos ou le ventre. J'ai fait le test en dehors des jours de stress et le constat reste le même. D'où ma question suivante à Sophie Strobel. Est-ce que le fait d'empêcher le corps de transpirer au niveau des aisselles fait qu'on transpire plus par ailleurs ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on transpire à peu près 1 litre d'eau par jour. C'est pas que par les aisselles. On a des glandes sudoripares un peu partout sur le corps. Alors elles sont quand même assez, évidemment, assez concentrées sur les aisselles, sur la plante des pieds, les mains, peut-être sur le front, un peu dans le haut du dos. Donc il y a des zones un peu plus concentré en glandes sudoripares, mais on transpire aussi, on perspire par la peau sur tout le corps. La perspiration, ça se fait à travers la peau et c'est de l'eau qui va s'évaporer. Alors, c'est pas tellement perceptible au quotidien. Mais si vous bloquez, entre guillemets, votre transpiration au niveau des aisselles avec des sels d'aluminium, de toute façon, c'est pas très grave. Le corps, il va évacuer son eau par ailleurs.
Donc, mettre de l'antitranspirant au niveau des aisselles n'empêche pas de transpirer ailleurs sur le corps.
Absolument pas. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça.
Et aussi, tu l'as bien rappelé, déodorant et antitranspirant, c'est deux choses différentes. La plupart des antitranspirants sont aussi déodorants, mais les déodorants sont rarement des antitranspirants. Sinon, ce serait
jamais.
Précisé sur le packaging.
Oui. Ce ne sont jamais. Voilà, comment on fait la différence ? C'est le packaging. Donc, évidemment, si vous avez antiperspirant, antitranspirant, c'est avec des sels d'aluminium. Et dans la liste d'ingrédients, c'est facile à trouver les sels d'aluminium parce que c'est aluminium quelque chose.
Et donc, quand il y a dans les supermarchés ou en parapharmacie, etc., on cherche un déodorant ou un antitranspirant, s'il y a écrit sans sel d'aluminium sur le packaging, c'est que c'est un déodorant et pas
exactement,
un antitranspirant.
Exactement.
D'accord. Là, tu viens de dire comment est-ce qu'on les reconnaît dans la liste INCI. Est-ce qu'il y a d'autres ? Est-ce que tu peux citer les noms complets de certains,
oui,
les plus communs ?
Alors, on a par exemple l'aluminium sulfate, l'aluminium chloride ou l'aluminium chlorohydrate.
Et tout ça, c'est des sels d'aluminium.
Exactement.
Et comment est-ce qu'on obtient ce type d'ingrédients ?
Alors, on les retrouve dans la nature, hein. Donc ce sont des l'aluminium étant le métal le plus abondant dans la nature, et des sels d'aluminium, des sels de métaux, ça se retrouve aussi dans la nature. Maintenant, en cosmétique, on va le synthétiser en laboratoire. Donc c'est une réaction assez simple, voilà, une réaction chimique classique.
Mais si je prends de l'aluminium et que je le gratte, ça donne des sels d'aluminium ou pas du tout ?
Non, non. Non, parce qu'il faut quand même le solubiliser. En fait, c'est un aluminium qui est soluble. Soluble pour le mettre dans de l'eau, pour le mettre dans des déodorants. Il existe un sel d'aluminium dans la nature qui est assez connu, c'est la pierre d'alun.
Alors qu'en fait, la pierre d'alun, c'est des sels d'aluminium concentrés, non ?
Exactement. Exactement. La pierre d'alun, ce sont des sels d'aluminium à l'état naturel. Donc finalement, en pensant bien faire, et c'est bien légitime, on remplace des sels d'aluminium par des sels d'aluminium, mais moins bien formulés et moins bien tolérés et moins agréables à utiliser.
Moins stables.
Voilà.
Oui, en plus, à entreposer dans la salle de bain, c'est compliqué. Enfin, j'ai l'impression que Faut l'appliquer sur peau mouillée ou je sais plus.
Oui, c'est un peu, c'est ça, c'est beaucoup plus compliqué. Après, si ça vous fait plaisir, allez-y, hein, ça marche
oui,
aussi. Hein,
ça a ses avantages aussi. Ça produit moins de déchets aussi, mais ça dure très
exactement.
Longtemps.
Exactement. Alors ça, c'est un bon point parce que effectivement, alors c'est un peu moins efficace et moins pratique, etc., que les déodorants avec des sels d'aluminium. Mais ces sels d'aluminium naturels, il y a l'emballage est quand même réduit au minimum. Il n'y a pas d'autres ingrédients parce que on parle des sels d'aluminium, mais dans la formule. De l'antiperspirant, il peut y avoir, il y a d'autres ingrédients, il y a forcément de l'eau, il y a des tensions actives.
Des parfums.
Il y a du parfum, par exemple, souvent. Voilà, un peu de dont on pourrait se passer, par exemple. Et c'est vrai que la pierre d'Alun, ça peut être une alternative d'un point de vue écologique. En revanche, c'est bien des sels d'aluminium.
Oui, la pierre d'Alun n'est pas une alternative aux sels d'aluminium, c'est une alternative aux antitranspirants conventionnels qu'on trouve dans le marché. Et voilà, si vous voulez, vous êtes un puriste zéro déchet minimaliste, c'est super. Surtout, ça interférera pas avec le parfum que vous pouvez mettre par ailleurs.
Exactement, on peut faire le parallèle avec le gel douche et les gels douche solides. Voilà, exactement.
Ou les pains dermatologiques, si vous avez la peau sensible.
Voilà.
Donc, t'as dit qu'on pouvait trouver de la lumière dans la nature et donc des sels de lumière dans la nature, mais que globalement, aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans les cosmétiques, c'est synthétisé en laboratoire.
Oui, c'est souvent, en fait, parce que c'est souvent. D'abord, on va avoir une molécule qui est plus pure. C'est plus reproductible, il y a moins d'impuretés, donc c'est souvent plus écologique aussi.
D'accord, donc on sait produire des sels d'aluminium de synthèse assez facilement et c'est moins polluant que d'en prendre dans la nature.
C'est une production qui est propre, il n'y a aucun problème environnemental avec les sels d'aluminium. C'est également des ingrédients qui ne vont pas persister dans la nature, enfin ils ne sont pas polluants, ils existent dans la nature. Voilà. Donc il y a aucune polémique d'ailleurs sur leur impact écologique à ma connaissance.
Que ce soit du côté de la production ni de la fin de vie,
exactement.
Une fois qu'on les rince, qu'on les lave, etc.
Oui.
Alors pourquoi les sels d'aluminium sont-ils controversés?
Ah, parce qu'il y a eu une étude il y a quelques années où on a retrouvé des sels d'aluminium sur des tissus cancéreux. Mais c'est une étude et les auteurs de l'étude eux-mêmes l'ont reconnu qui n'a pas vraiment de valeur en vérité parce qu'ils ont regardé ce qu'il y avait dans des tissus cancéreux, mais ils n'avaient pas de témoins. Ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé s'il y avait des sels d'aluminium dans des tissus, ma mère, non cancéreux. Et effectivement, il y en a et c'est pas forcément les sels d'aluminium, ça peut être l'aluminium, encore une fois, c'est un élément naturel. On en ingère aussi, etc. Donc, c'est une étude qui n'a pas de valeur. Et malheureusement, donc, ça a mis un petit peu le feu aux poudres. Alors, malheureusement, mais heureusement, quelque part, parce que ça aussi était l'opportunité d'aller encore plus creuser, faire de nouvelles études sur le sujet. Et les dernières études, les dernières conclusions des autorités de santé datent de 2019, où on a étudié tout ce qui avait été fait sur le sujet. C'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc, on a pris plein d'études à travers le monde depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce que c'est quand même des ingrédients qui sont utilisés depuis près d'un siècle. Et pas que en cosmétique, d'ailleurs. En médicaments, je crois dans le traitement des os, il y a tout un tas d'applications. Et donc, les conclusions de tout ça, ça a été que il n'y a pas de pénétration des sels d'aluminium à travers la peau, et donc il n'y a pas d'effet cancérogène ou autre. Et pourquoi il n'y a pas de pénétration? Tout simplement parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la manière dont ils fonctionnent, ce sont des grosses molécules qui vont en plus s'agglomérer pour empêcher la sueur de passer. Et donc, ça reste en surface, ça ne peut pas pénétrer dans la peau. Je crois que c'est 0,0002%, donc 3-0, des sels d'aluminium qui peuvent traverser la peau. Et une fois qu'ils ont traversé la peau, il n'y a pas de problème. Donc
c'est vraiment des traces minimes et de toute façon on ingère de l'aluminium au quotidien comme tu le disais tout à l'heure.
Exactement, et c'est des traces minimes et en plus comme on transpire on les élimine, voilà, on se lave, il y a le frottement des vêtements parce que sous les aisselles quand même il y a pas mal de frottement et puis aussi il y a le renouvellement naturel de la peau, de l'épiderme qui fait que les cellules qui sont en surface de la peau tous les jours sont un petit peu exfoliées, alors c'est pas, on s'en rend pas compte mais ça désquame. Donc en fait, il y a vraiment zéro risque et ça a été avéré donc en 2019, et y compris d'ailleurs parce qu'il restait un doute sur les aisselles rasées ou les aisselles lésées. Et donc y compris sur les aisselles rasées, ça ne pénètre pas.
Donc même si on vient de s'épiler, les aisselles et qu'on mette de l'antitranspirant avec des sels d'aluminium sur l'aisselle, il n'y a pas de risque.
Il n'y a pas de risque par rapport aux sels d'aluminium. Maintenant, s'il y a de l'alcool dans votre déodorant ou votre antiperspirant, je vous le déconseille.
C'est irritant.
Mais par rapport aux sels d'aluminium, non, il n'y a pas de risque.
D'accord. Donc ça, c'est clair et net. Tout le monde s'accorde là-dessus.
Oui, toute la communauté scientifique s'accorde là-dessus. Autant sur certains ingrédients polémiques, des fois, il y a des petites... Mais là, il n'y a vraiment aucun souci.
Donc, c'est une controverse illégitime, enfin...
Tout à fait.
Complètement disproportionnée et
oui.
Fausse, enfin...
Oui, oui, oui. Après, c'est pour ça qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi certaines marques qui le savent ou alors qui sont mal informées continuent à surfer sur ce mythe.
Mais peuvent-elles être mal informées vu,
Je pense qu'il y a beaucoup de biais, que parfois... Enfin, je ne sais pas. J'ai envie de dire, avant 2019, pourquoi pas à cause de cette histoire des sels rasés. Même moi... Je recommandais de ne pas appliquer de sel d'aluminium sur les sels rasés au cas où, parce qu'il y avait un doute. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de problème, donc voilà.
Effectivement, il y a peut-être de l'ignorance, effectivement, il y a peut-être des biais, mais il y a aussi le fait que le marketing de la peur fonctionne très bien. C'est qu'en fait, voilà. Si on écrit sans sel d'aluminium sur un déodorant,
ça marche.
Et puis, à ton avis, pourquoi ça marche?
Moi, je pense que la cosmétique, c'est futile. Il y a un côté dans la tête de certaines personnes, alors ça fait très... Je ne vais pas parler de patriarcat et de tout ça, et de sexisme et tout, mais je le pense un petit peu. Tout ce qui est cosmétique, d'une manière générale, on considère que c'est futile ou que c'est... Alors, en réalité, c'est essentiel, parce que dans la cosmétique, il y a aussi tout ce qui est hygiène, y compris les dentifrices, par exemple.
Effectivement, il y a une dimension relativement patriarcale, où en fait, c'est un marché où les femmes achètent en masse, en fait. Donc, on peut se dire... On les laisse acheter leurs trucs de bonne femme et tant pis si c'est pas avéré scientifiquement tel ou tel produit ou telle allégation. Et il y a peut-être aussi le fait que, puisque c'est surtout des femmes qui achètent ces cosmétiques-là, la peur du cancer du sein, elle est aussi très présente, j'ai l'impression.
Bien sûr, tout à fait. Et puis c'est les femmes d'une manière générale qui, même pour leur famille, leurs enfants, leur homme, font attention, sont plus sensibles en fait à tout ce genre de... à la santé. Tout simplement à leur santé, à celle de leurs proches. Je pense à tout ce qui est alimentation bio aussi, ou cosmétique bio. Souvent, d'ailleurs, les femmes se mettent à la cosmétique bio quand elles sont enceintes de leur premier enfant.
Oui, parce que d'un coup, elles traquent, est-ce qu'il y a des huiles essentielles,
et elles ont peur, et c'est normal, moi je comprends de se poser la question. Moi, c'est mon domaine, donc quand j'étais enceinte, je ne me suis pas inquiétée du tout. J'ai utilisé des parabènes, j'ai utilisé des sels d'aluminium, j'ai utilisé...
Mais tu faisais attention aux perturbateurs endocriniens, moi.
Voilà, tous ces pseudo-perturbateurs endocriniens, donc je n'étais pas inquiète là-dessus. Mais je comprends tout à fait, c'est tout à fait légitime. Moi, je m'inquiétais plus pour des questions alimentaires, par exemple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cosmétique, c'est quand même... hyper réglementée en Europe. C'est la réglementation la plus stricte du monde en cosmétique. Et c'est plus réglementé quelque part que l'alimentaire. D'ailleurs, vous n'avez aucun scandale en cosmétique. Il n'y a pas de vrai scandale avéré. Je parle type la dioxine, la vache folle, ou que sais-je, le médiator ou ce genre de truc. Il n'y en a pas. Le seul qu'il y a eu, mais c'est vraiment un cas un peu exceptionnel, c'était dans les années 70, il y a eu le scandale du talc morange, donc c'était un talc pour les enfants, pour les fesses des enfants. Il y a eu quelques morts parce qu'il y avait une erreur de dosage. Oui, oui, c'est ce qui a fait. Donc c'était vraiment une erreur humaine de dosage qui était exceptionnelle. Et c'est ce qui a précipité un peu le fait qu'il y ait une réglementation. Et depuis, tout est très tracé, etc. Donc tout ça, c'est impossible que ça se reproduise. Mais c'est pas un scandale de type... la dioxine, encore une fois, le médiator,
ouais.
La vache folle, ou je ne sais quel ingrédient, l'âne, non, c'était quoi, du cheval caché dans je ne sais pas quoi.
Dans les lasagnes fendues, on s'en souvient.
Il n'y a pas tout ça.
Mais justement, c'est ça aussi. Donc, disons-le explicitement, les personnes qui achètent des cosmétiques et qui traquent la mention sans sel d'aluminium sont pleines de bonne volonté.
Oui.
Et c'est le marketing de la peur qui fonctionne à bon escient, en fait. C'est ça qui est... On
c'est
est victime
ça. Moi,
de ça,
moi,
en
je,
fait.
Moi, je les comprends tout à fait.
Bien
et
sûr.
Pour le coup, je ne les juge pas, je ne me moque pas, parce que j'aurais fait pareil. Si tu veux, on consomme tellement de choses et tout ça qu'on peut se poser la question. Après, là, ce qui me dérange, c'est que certaines marques, quand il y a encore des doutes à lever, etc., même si on sait qu'a priori, il n'y a pas de problème, mais je peux comprendre qu'elles soient encore prudentes. Mais quand c'est avéré, et maintes fois avéré, et à travers le monde, par tout le monde, comme là depuis 2019 sur les sels d'aluminium, je trouve qu'il y a une responsabilité des marques qui est engagée et qui, moi, me dérange profondément. Après, il y a certaines marques qui ont fait leur marketing là-dessus, donc ils ne vont pas revenir en arrière. Il y a aussi certaines applications qui font leur marketing. Imagine, tu scannes ton produit, puis tout va bien à chaque fois.
Tu la désinstalles.
Voilà.
Donc, tu as intérêt à avoir une appli qui te dit « Attention, la scène est miam !»
C'est ça. Et je pense, je vais parler juste une petite parenthèse, c'est pareil pour le phénoxyéthanol, par exemple, qui est un conservateur qui a été décrié. Et à peu près au même moment, en 2019, il y a eu encore plein d'études et il n'y a aucun problème avec le phénoxyéthanol. Et tous ces gens-là le savent, mais tous ces gens-là continuent
à dire sans phénoxyéthanol.
Voilà, savant.
Ouais, savant.
Et ce qui est terrible, c'est que même quand tu es dans une marque qui le sait et qui n'a pas envie de surfer là-dessus, tu te mets à reformuler sans phénoxyéthanol, sans sel d'aluminium, sans silicone, sans je ne sais quoi, parce que tu sais très bien que les gens, parfois, ils vont regarder la formule, voire ils vont la scanner avec une application et ils vont la reposer en disant « Ouh là là, au secours, il y a du phénoxyéthanol, il y a des sels d'aluminium. » Et donc les marques, si elles veulent, les marques conventionnelles qui sont pas sur ce créneau-là de marketing de la peur, sont obligées aussi de reformuler. C'est quand même incroyable, y compris les marques prescrites par des dermatologues en pharmacie.
Oui, finalement, les marques qui se revendiquent de la clean beauty sont les enfants du marketing de la peur.
Les dessous de l'index. Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter Les dessous de l'index, une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Ce quatrième épisode sera dédié à l'impact du transport des matières premières qui entrent dans la composition du produit fini. En effet, 10% de l'impact sur l'environnement de votre cosmétique et 5% pour les compléments alimentaires est dû au transport de leurs composants. Ce critère représente un point sur les 20 que compte le Green Impact Index. Mais d'abord, le Green Impact Index, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D. Mais alors, comment obtenir ce précieux point lié au transport des composants ? Eh bien, le Green Impact Index considère qu'il y a trois possibilités. Première possibilité, une quantité égale ou supérieure à 30% des composants du produit est fabriquée en France. Deuxième possibilité, une quantité égale ou supérieure à 50% est fabriquée en France ou bien dans un pays limitrophe comme l'Italie ou l'Allemagne. Enfin, dernière possibilité, une quantité égale ou supérieure à 70% des matières premières est fabriquée en Europe continentale. Afin de ne pas rencontrer de problème d'approvisionnement, Pierre Fabre possède au moins deux sources d'approvisionnement pour chacune de ses matières premières d'origine végétale. Par exemple, l'huile essentielle d'Hélichryse, commercialisée par la marque Nature Active, est cultivée en bio et extraite dans le Tarn, à Saint-Sulpice et Gaillac précisément, et conditionnée dans un atelier situé à Cahors, dans le Lot. Ce produit obtient 1 point sur 20 au Green Impact Index pour son impact lié au transport, puisque ses matières premières proviennent de la région Occitanie et que le produit est fabriqué dans cette même région. J'espère vous en avoir appris davantage sur la fabrication des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Otherma Lavenne, de Ducré, de Nature Active ou encore d'Aderma. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacune et chacun de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt. Les dessous de l'index.
Je trouve que la clean beauty, elle est intéressante pour le côté environnemental. Là, c'est un vrai sujet où il y a des efforts à faire. Sur le côté santé, en réalité, on est très très protégé par la réglementation européenne. Les marges de sécurité, ce qu'on appelle les marges de sécurité, par exemple le phénoxyéthanol, il est autorisé jusqu'à 1% dans les cosmétiques. Comment on a calculé ce pourcentage ? En fait, on a parti du principe qu'on est exposé dans tous nos produits cosmétiques de la journée avec le pourcentage maximum, donc 1% de phénoxyéthanol. Le fond de teint, le shampoing, le gel douche, la crème, le machin, tout ça, matin, soir, la crème corps, le solaire, tout.
Donc si on startine toute la journée de produits avec 1% de phénoxyéthanol, même voilà, là, il n'y a pas de problème.
On maximise, et là, la marge de sécurité, c'est 100 fois ça. Ça veut dire qu'on a, 100 fois moins de risques. Et encore, personne ne met 1% de phénoxyéthanol dans tous les produits avec 25 produits par jour.
Donc, matin et soir.
Non, mais voilà. Donc, les marges de sécurité sont quand même importantes. Il ne faut pas oublier non plus que tous les cosmétiques vendus sur le sol européen sont étudiés aussi par des toxicologues indépendants qui vont donner leur avis et qui, en fait, vont mettre en jeu leur crédibilité, finalement, pour dire, bah tiens, là, je valide, là, non, il y a trop de tels ingrédients, là, peut-être qu'il faudrait mettre une mention interdite, enfin, pas recommandée aux femmes enceintes, etc. Donc, quand même, on est très, 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 très protégés en Europe. Je dis pas que tout est parfait, hein, attention. Mais on est assez protégés, et puis aussi, l'industrie cosmétique s'autorégule assez bien. C'est-à-dire que souvent, on n'attend pas, quand on voit qu'il y a quelque chose qui commence à dysfonctionner, on n'attend pas que les autorités, la loi, n'imposent ou ne limitent un ingrédient pour le retirer. J'ai un exemple récent sur, suite à toute la polémique sur les parabènes. Il n'y a pas de problème sur les parabènes en cosmétique. Hein.
Allez écouter l'épisode conservateur de Matières Premières.
Voilà, donc, mais on a été obligé de les substituer parce que sinon ça ne se vendait plus, quoi, grosso modo.
Par des conservateurs sur lesquels on avait moins de recul.
Et exactement, notamment le fameux MIT. Et qui a très très vite provoqué pas mal d'eczéma, notamment chez les enfants. Donc il y a eu beaucoup de signalements. Et je sais pas, en 2-3 ans, ça a été interdit. Ou en tout cas très limité à 0,00. Enfin, c'est encore un pourcentage.
Dérisoire.
Dérisoire, voilà.
Et pour en revenir au sel d'aluminium, justement, par quoi est-ce qu'on a commencé à les remplacer sur le marché ? Pierre Dallan,
encore une fois, on ne peut pas remplacer le sel d'aluminium pour son côté antiperspirant. Ça n'existe pas. Peut-être qu'un jour ça existera. Ça n'existe pas. On le remplace souvent par de la pierre d'Alun. Donc, on ne fait que reporter le problème parce que la pierre d'Alun, c'est du sel d'aluminium naturel. Et sinon, c'est beaucoup de déodorants à base de bicarbonate de soude.
Ça me défonce le sel.
Et ben voilà. Et alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je crois que c'est 2 à 3% de la population qui ne supporte pas le bicarbonate de soude. Il y en a chez qui il n'y a pas de problème, mais 2 à 3%, c'est énorme. C'est beaucoup plus qu'un irritant habituel. C'est énorme. C'est pour ça que certaines marques, notamment dans des grands groupes, ne développeront jamais des déodorants avec du bicarbonate parce que, d'un point de vue tolérance, ça ne va pas. Donc, on va remplacer, en fait, des antiperspirants qui sont safe, qui sont connus depuis très longtemps, par un produit qui est moins efficace et qui est potentiellement irritant. Dans lequel on va rajouter du parfum pour essayer de masquer les odeurs. Et puis, souvent, ce qu'on rajoute, c'est des poudres absorbantes. Mais le bicarbonate lui-même est un peu absorbant, donc pour absorber le flux de transpiration. Mais voilà, donc si ça vous convient, très bien. Mais on n'a pas du tout la même efficacité et la même tolérance, c'est sûr.
D'accord. Donc, on va leur dire une 40e fois, il n'y a pas de risque connu pour la santé à cause des sels d'aluminium.
Aucun risque.
En tout cas, en application topique, sous les aisselles, en néodorant.
Voilà, merci de préciser. Parce que, en fait, c'est toujours pareil. C'est la dose fait le poison, et puis c'est aussi le poison, ça dépend de l'usage. Est-ce que je le mets en topique sur les fesses d'un bébé sous couche 24 heures sur 24, ou est-ce que c'est dans un shampoing qu'on va rincer, ou est-ce que c'est une application une fois par semaine, trois fois par jour. Donc tout ça, c'est important. Quels sont les autres ingrédients, etc. En fait, la tolérance et la toxicité du produit, c'est tous ces paramètres-là. C'est pas un ingrédient. C'est sa dose, c'est son usage, c'est les autres ingrédients, etc.
Ok. Et d'après toi, qu'est-ce qu'on doit retenir d'essentiel autour des sels d'aluminium ?
Je sais que les consommateurs aiment bien quand c'est noir ou blanc. Et pour le coup, sur les sels d'aluminium...
C'est tout blanc.
Voilà. Voilà, il n'y a pas de problème de santé, aucun. Il n'y a aucune pénétration, il n'y a vraiment aucun risque. Ça a été encore avéré récemment. Il n'y a pas de problème au niveau de l'environnement. Et il n'y a pas d'alternative aussi efficace, tout simplement.
Voilà, je le répète encore une fois, les sels d'aluminium représentent le meilleur et le seul ingrédient antitranspirant du marché. Donc, si vous voulez un produit antitranspirant, vous êtes obligé d'avoir recours à des sels d'aluminium. Et pour le coup, c'est assez facile à reconnaître dans le listing. C'est comme le porte-salut, c'est écrit dessus. Aluminium sulfate, aluminium chloride ou encore aluminium chlorohydrate. Et si vous êtes fan de Pierre Dallin, bah ça regorge de cet aluminium. Donc, c'est une bonne alternative si vous voulez du zéro déchet, minimaliste, aux antitranspirants conventionnels qui combinent d'autres ingrédients. Mais la pierre d'Alun, c'est des sels d'aluminium. Enfin, la plupart des autorités de santé internationales s'accordent toutes à dire que les sels d'aluminium qu'on peut trouver dans les cosmétiques n'ont aucun lien avec d'éventuels risques pour la santé. Cette vieille polémique date d'une ancienne étude mal faite, mal résumée et surtout mal comprise et véhiculée dans les médias. C'est ce qui a provoqué une panique généralisée que certaines marques exploitent car le marketing de la peur fait vendre. Entretenir la désinformation et l'insécurité, ça fait de la thune. La peau n'absorbe pas les sels d'aluminium contenus dans les cosmétiques. Et de toute façon, ce qui est utilisé dans les cosmétiques est bien inférieur à ce qu'on mange et boit au quotidien, vu qu'il y a de l'aluminium partout dans la nature. Merci encore à l'ingénieur biologiste en cosmétologie Sophie Strobel, alias Démaquillage, au pluriel, sur Instagram, pour son éclairage scientifique. Et la semaine prochaine, on se retrouve dans le podcast Matière Première pour parler de solaire, avec la skinfluenceuse Benvinda Nsimba et le docteur Anthony Calmont. Alors, est-ce qu'on peut se contenter de mettre de la crème solaire seulement quand on va à la plage, ou est-ce qu'il faut en mettre tous les jours, même en ville? Et surtout, est-ce que c'est en train d'abîmer la faune et la flore aquatiques?